Quand on pense à sa consommation, on pense à une consommation idéalement responsable, et on se pose toujours des questions sur les efforts qu'on peut faire et la manière dont on peut y arriver. Une chose à laquelle on ne pense pas, c'est au design des objets eux-mêmes, c'est-à-dire comment les objets font qu'on va interagir avec eux et qui vont avoir un impact sur l'environnement. Et pour ça, je reçois un designer indépendant qui s'appelle Geoffrey Dorn, qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'impact sur l'environnement, mais aussi impact social, à travers le design. Donc je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Alors bonjour à toutes et à tous. Bonjour Geoffrey.
Salut, ça va?
Ouais, ça va pas mal. Alors du coup, on n'est pas ensemble, on va dire, on va être honnête. T'es à Lyon et moi je suis à Paris.
Ouais.
Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Et toi, tu es designer. Mais tu t'intéresses beaucoup à l'impact du design sur l'écologie et comment le design peut avoir un impact sur la transition écologique qu'on doit faire. Je pense que c'est une partie auquel les gens ne pensent pas nécessairement. Et pourtant, c'est vrai que avec le design, on peut complètement transformer les usages. Comment toi, t'es venu à cette idée, d'abord, en tant que designer, et est-ce que tu peux donner des exemples assez concrets, simples, que les gens peuvent comprendre?
Alors, en fait, déjà, je te remercie beaucoup, Grégory, de m'offrir la parole dans cette conversation,
plaisir.
Et je trouve ça assez chouette. En effet, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de design, tous les deux. Alors, sur ces questions écologiques, on va même parler de questions environnementales, au sens large. Parce que je trouve ça encore plus intéressant. Nous, humains, utilisateurs, dans le design, on parle beaucoup d'utilisateurs, on vit dans des environnements, la ville, un appartement, une voiture, un espace de travail, une forêt. Tout ça, c'est des environnements. Et on passe notre temps à interagir avec ces environnements, tels qu'ils soient. Et en fait, le designer, souvent, il crée des interfaces, que ce soit des objets, mais des interfaces numériques, mais que ce soit des architectures aussi, etc., qui nous permettent d'interagir avec ces environnements. Et donc toute la réflexion et l'intérêt aussi que le design peut porter, c'est de se dire comment on va faire en sorte que nos utilisateurs, que les humains qui vont expériencer ces environnements, le fassent de la façon la plus poétique, la plus surprenante, la plus efficace, la plus éco-responsable, la plus logique, peu importe quel esprit on veut mettre derrière, avec l'environnement. Donc on crée des smartphones, des voitures, mais on crée aussi des livres en papier recyclé, mais on crée aussi des moyens de transport nouveaux, différents, etc., etc. Donc tout ça, en fait, on a des milliers d'objets, de formes de design autour de nous au quotidien. On ne s'en rend pas vraiment compte. Et tout ça, ça nous permet de nous outiller pour interagir avec tous les nombreux environnements qu'on a. Et plus on est conscient de ces mutations environnementales, on peut parler d'écologie, de climat qui est bouleversé, on peut parler de ces sujets que plus personne ignore aujourd'hui, plus on va revenir questionner notre rapport à nos environnements, donc notre rapport à la nature, notre rapport à notre intérieur, notre rapport à la ville, et donc on va venir changer les interfaces, que ce soit les objets, mais les interfaces aussi sociales, architecturales, que l'on va mettre dans les mains des gens.
Et alors justement, c'est intéressant parce que souvent, les gens y pensent, pas toujours, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cas où tu ne vois pas ce que tu fais. Donc, quand on préparait, je te disais, par exemple, quand tu attends que l'eau soit chaude pour faire la vaisselle ou pour prendre une douche, tu ne réfléchis pas vraiment à l'eau qui tombe et que tu gâches, entre guillemets. Elle va nulle part, cette eau. Ils n'ont pas prévu dans la baignoire ni dans l'évier un moyen de sauver cette eau qui, finalement, est gâchée pour rien. Quand tu chauffes de l'eau dans une bouilloire et qu'en fait, tu en mets trop, quand tu mets de l'eau dans une bouilloire et que tu en mets trop, forcément, tu gâches de l'énergie pour pas grand-chose. Donc, en fait, il y a tous ces éléments-là, effectivement, que les gens n'ont pas forcément confiance. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a des sortes d'approches qui sont assez radicales, c'est-à-dire soit je vais consommer des produits comme ce que j'expliquais là, soit tu vas carrément faire ta lessive tout seul, ou ton savon, ou ton dentifrice tout seul. Il y a pas des... Enfin, et toi, ce que tu dis, c'est que finalement, il y a des étapes intermédiaires à travers le design qui peuvent permettre de réduire de manière assez large l'impact.
C'est un super sujet. En effet, on peut imaginer plusieurs étapes. Avant de se dire, OK, en fait, j'ai besoin d'une bouilloire électrique pour faire bouillir mon eau. Avant, les gens utilisaient parfois un micro-ondes, parfois ils faisaient chauffer ça à la casserole, etc., etc. En fait, on a tout plein d'objets différents. Parfois aussi, certaines personnes font chauffer un litre d'eau, le mettre dans un thermos pour la journée. J'ai rencontré récemment une grand-mère qui fait sa tisane pour la journée, donc elle a besoin de faire chauffer une seule fois l'eau. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi des solutions, on va dire, plus écologiques, en quelque sorte. Mm-hmm. Et en fait, le fait de rendre visible ce qu'on consomme, déjà, c'est un premier pas, de savoir ce qu'on consomme. Aujourd'hui, quand je prends une douche, quand j'allume l'électricité ou quand j'utilise mon ordinateur, j'ai aucune conscience de combien je consomme. Donc, il faut me donner les moyens pour que je puisse comprendre. Savoir que je consomme, je sais pas combien de kilotonnes de CO2 par an, ça me parlera pas. Non. Par contre, de savoir peut-être de me représenter le nombre d'allers-retours que ça fait en voiture, le nombre d'allers-retours en avion, etc., etc. Là, peut-être, ça me permettra peut-être de le comparer ou de le comprendre un peu mieux. Donc, je pense qu'il faut déjà donner des idées de mesure, des unités de mesure, utiliser des métaphores aussi, c'est hyper important dans le design de montrer aux gens qu'est-ce que ça représente sous d'autres formes. On a vu ça beaucoup dans l'alimentation, dans la malbouffe, le fait de dire que dans une canette de coca, il y a je sais pas combien de sucre, tout à coup les gens, de carrés de sucre, les gens comprennent, ils disent ah ok, je le visualise, je le comprends. Donc ça, je pense qu'il faut outiller, pour moi c'est une première marche, d'outiller les gens sur mieux percevoir leur environnement, ce qu'ils consomment, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils jettent, ce qu'ils exploitent, etc. Et l'étape d'après, c'est de se dire, maintenant que je peux le visualiser, comment je le maîtrise, comment je maîtrise mes données, comment je maîtrise ce que je mets sur Internet, comment je maîtrise ma consommation énergétique, etc. Et une fois qu'on le maîtrise, eh ben, l'objectif, c'est de dire comment je vais le réduire et voir comment je peux m'en passer. Donc, c'est pas mal de marches, pas mal d'étapes. Tout ça, ça se design, tout ça, ça se conçoit. Certains diront, on n'a pas le temps de passer de toutes ces marches. Il faut aller tout de suite à l'étape décroissance, à l'étape zéro. D'autres diront, non, on va y aller tout doucement, sinon ça va bloquer des gens, ça va frustrer des gens. Moi, personnellement, je serais tendance parfois à être un peu radical sur certains aspects en disant il faut aller direct, droit au but, parce qu'on n'a pas le temps, parce que c'est grave. Parfois, j'ai un peu de douceur parce que je pense à ma famille, à mes amis, et je me dis que pour eux, être trop radical, ça peut être un peu difficile.
Moi, je crois pas trop dans l'écologie punitive, comme on appelle ça. Je pense que c'est trop frustrant et en plus, ça s'oppose complètement au modèle, au mythe de société. Mais est-ce que tu as des exemples, en dehors de ceux que j'ai donnés, évidemment, c'est-à-dire un compteur d'eau sur une douche ou par exemple un moyen de récupérer l'eau que tu gâches entre guillemets quand t'attends que l'eau devienne chaude ou la bouilloire. Est-ce que tu as des exemples d'éléments de design qui permettraient de voir ta consommation? Parce qu'en fait, je pense que la majorité des cas de pollution entre guillemets, en fait, tu ne les vois pas. Par exemple, quand tu es dans ta voiture et que tu pollues, tu n'as pas un compteur sur ta voiture de CO2, donc tu ne te rends pas bien compte de l'impact de CO2 que tu envoies, puisqu'en fait, tu n'en sais rien entre guillemets.
Alors là-dessus, c'est pour des pollutions qui seraient d'un point de vue citoyenne ou individuelle. Après, quand on a des entreprises comme où est-ce que j'avais vu ça, comme ArcelorMittal qui déverse de l'acide dans la nature, ça c'est invisible aussi parce qu'ils le font de façon cachée. Mais ça a des impacts beaucoup plus grands. Donc je pense qu'il y a des façons de représenter de toutes les manières à l'échelle du citoyen. En effet, comme tu le dis, ça peut être de l'écologie punitive, de l'écologie parfois qui rend les gens coupables, de se dire voilà, nous citoyens, on se sent coupables d'avoir des emballages plastiques, donc on va essayer de les réduire. D'autres se diront non, en fait c'est les entreprises, c'est leur faute. D'autres diront c'est les États. Bref, il y a tout un ensemble d'efforts à faire de toutes parts. En termes d'exemple, je pense que pour revenir là-dessus, il y a le Low-Tech Lab. C'est un laboratoire qui est orienté sur les low-tech. Ils ont par exemple inventé une douche assez intéressante où en fait l'eau qu'on utilise, elle est récupérée dans le bac à douche, elle est filtrée et elle revient dans le bac tout en haut dans un petit conteneur tout en haut pour être réutilisée. Donc on est quasiment sur un circuit fermé où en fait l'eau qu'on consomme, elle est nettoyée parce que finalement quand on prend une douche, on n'est pas extrêmement sale, elle est nettoyée, un peu purifiée et elle redescend une fois qu'on a fini de s'en servir, on peut la réutiliser. Donc ça, c'est un exemple assez simple de le fabriquer soi-même parce que justement le Low-Tech Lab invite les gens à fabriquer eux-mêmes les choses et ça permet aussi de visualiser qu'on peut utiliser 5, 10, 15 litres pour une douche et d'avoir ça, le faire soi-même, c'est une façon pour moi de percevoir ça. Après, j'imagine qu'il y a sûrement d'autres outils qui permettent de visualiser sa consommation, ne serait-ce que les gens qui utilisent par exemple chez eux des choses tout simples comme des bocaux, tout ce qui est en verre, ça permet de visualiser l'état des stocks, ça permet de visualiser ce qu'on consomme par semaine, par jour, et de voir un petit peu comme une data visualisation mais graphique en temps réel. Récemment aussi, j'ai vu un exemple assez rigolo je crois que c'était en Angleterre, à Londres. Là, c'est un système de poubelles où en fait, on a deux poubelles qui sont côte à côte, qui incitent les gens à jeter leurs mégots ou leurs détritus. Mais c'est un système de vote en disant vous préférez voter pour telle personne, vous préférez telle équipe de foot ou telle équipe de foot. Et donc les gens mettent leurs détritus, leurs déchets dans une poubelle pour voter ou dans l'autre poubelle pour voter sur l'autre partie ou pour l'autre équipe. Et donc tout à coup, ça utilise une forme de design un petit peu décalée pour faire en sorte que les gens modifient leur comportement et jettent des détritus. Donc ça, c'est quelques exemples comme ça. Souvent, ces exemples-là peuvent paraître très anecdotiques parce que tout simplement, ils ont un impact vraiment mineur, sachant que pour moi, les impacts qui sont vraiment grands, c'est des impacts qui sont au niveau de l'emballage. Et ouais, c'est ça, c'est des impacts qui sont beaucoup plus grands pour porter un effet.
Et alors, du coup, j'ai plusieurs questions. La première, c'est est-ce que tu penses que practicité s'oppose à responsabilité? Souvent, on oppose. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pratique de commander sur Amazon, mais c'est pas très responsable. De la nourriture sur Uber Eats pour ceux qui habitent dans les villes, mais c'est pas très responsable.
C'est une belle question. Ouais.
Ouais, vas-y. Pardon.
Non, j'allais justement rebondir. C'est une très belle question que tu poses là. Si on remonte un petit peu l'histoire de l'humanité, ces questions de praticité, pour moi, c'est des questions de confort. Et justement, l'humain a cette espèce de recherche de confort, et une fois qu'on a cette recherche de confort, on va parfois tomber dans des travers que sont Uber Eats, que sont Amazon, que sont le chauffage à 25 degrés à la maison, etc. Tout ça, c'est des éléments de confort, et à mon sens, un certain niveau de confort trop élevé vient nuire aux questions environnementales. Quand je disais, si on remonte un peu l'histoire de l'humanité, l'humain était chasseur-cueilleur au départ. On a ensuite développé l'agriculture. L'agriculture a permis justement d'avoir un certain confort, de faire du stock, de passer les hivers d'une meilleure façon, mais commencer aussi à parquer les animaux, à faire de la sélection biologique au niveau des plantes, etc., etc. C'est ce qui, si on suit le fil de l'histoire vraiment de bout en bout, depuis cette recherche de confort, d'optimisation pour avoir un confort maximal et aussi un profit maximal, on en arrive aujourd'hui dans des contextes climato-problématiques, on va dire, qui sont dans un contexte qui est extrêmement grave. Donc pour moi, j'ai tendance à me méfier du confort en tant que designer, de me dire... En tant que designer, on imagine toujours il faut que ce soit simple, fluide, agréable, sans couture, etc. Eh ben non, je pense qu'il faut réinstaurer des frictions, des problèmes, des petits cailloux dans la chaussure, des trucs qui font grincer un peu des dents ou qui demandent un petit effort. Parce que l'effort, c'est aussi ce qui nous rend, nous, humains, capables, compétents, on se dévoue aussi à faire des tâches plutôt que d'être juste passif et d'être vraiment dans ce confort comme on voit dans ce dessin animé Wall-E, que j'ai vu avec mon neveu récemment, où t'as les gros personnages qui sont dans leur chaise et ils boivent des milkshakes à longueur de temps en faisant rien. Ben voilà, ça c'est l'apothéose du confort en quelque sorte.
Et c'est pas là où on a envie d'aller.
Exactement.
Et la deuxième question, et qui est liée à ce que tu disais sur la capacité des gens à... Enfin, par exemple, sur l'exemple des mégots, typiquement, avec la publicité, avec le fait de pouvoir voter, on peut et on pourra imaginer... Enfin, c'est ce que j'ai en tête, en tout cas je suis pas designer, mais un moyen pour une famille par exemple de pouvoir comparer des résultats, donc de mettre du jeu entre guillemets sur ta consommation d'énergie, sur ta consommation d'eau à tous les niveaux, et en fait on pourrait imaginer que dans une famille tu puisses créer un jeu avec celui qui a consommé le plus, celui qui a consommé le moins, et que du coup à travers ce concours, donc déjà de pouvoir visualiser, mais derrière de pouvoir comparer avec les membres de la famille, et qui du coup te permettent d'être dans un jeu un peu du coup de rendre la chose plus agréable, plus fluide, parce qu'en fait derrière tu vas essayer de moins consommer parce que j'en sais rien, peu importe comment le jeu est designé, mais tu peux l'envisager ça aussi, non, peut-être?
Alors ça c'est intéressant aussi, le fait de créer d'utiliser la mécanique de la compétition pour pouvoir modifier des comportements, ça pourrait être une solution. Après, est-ce qu'on veut justement induire des nouvelles mécaniques de compétition dans nos sociétés au sein d'une famille? On pourrait dire non, on veut pas, c'est bon, on en a déjà assez sur tous les aspects, sur les notes à l'école, sur celui qui mange trop, pas assez, etc. Je pense qu'on peut, par exemple, il y a une journaliste il y a quelques années américaine qui a, ou britannique, je sais plus, mais elle a publié un livre qui s'appelle Déconnexion, je crois, et pendant un an elle est coupée d'internet, et pour donc elle continue de faire son travail quand elle va au bureau, à l'internet, etc., je crois, mais chez elle a plus du tout internet, et ses enfants, la première semaine, elle leur coupe et internet et l'électricité. Donc elle dit voilà, on va faire une expérience pendant une semaine, on va plus avoir d'électricité du tout. Et en fait, elle rend ça un peu comme un jeu. Donc ils redécouvrent la radio, les enfants font de la musique, ils pètent des câbles aussi parce qu'ils ont besoin d'avoir internet, leur ordinateur et tout ça. Donc ça crée des tensions, etc. Mais le fait de perdre en quelque sorte en confort, ça permet de recréer des mécaniques presque solidaires, de se dire en fait on va s'entraider. Les enfants ils vont chez leurs amis pour faire les devoirs par exemple, ou ils se mettent à sortir, ils se mettent à jouer dans le jardin, ils se remettent à faire des trucs un peu différents. Et je pense que justement pour modifier les comportements, il y a des façons de faire qui sont plutôt solidaires et plutôt on va dire vivantes et actives que de retomber parfois dans des systèmes de compétition. Il y a un très beau livre de Pablo Servigne qui l'a publié je crois il y a quelques années. C'est un livre qui s'appelle L'entraide, qui est l'autre loi de la jungle. Et on a souvent tendance à croire qu'en cas de crise, tu sais, les gens, c'est la loi de la jungle, c'est le plus fort qui gagne, etc. Et en fait, dans la nature, on constate que quand il y a des crises, au contraire, les gens s'entraident, ils coopèrent, ils essayent de faire en sorte que tout aille bien. Et bien, je trouve que essayer de favoriser ces mécaniques d'entraide dans des problématiques environnementales, ça peut être assez beau et ça peut révéler aussi des belles phases de l'humanité.
Mais alors la question, et alors je suis hyper d'accord, hein, enfin mais je challenge quand même. Moi je suis hyper d'accord, en particulier il y a un mot qui est cher pour moi, et d'ailleurs sur Vlan j'essaie de parler de ça, je parle que de lien finalement, de lien à soi, lien aux autres et lien à la nature. Donc tu vois ce mot de lien auquel tu fais référence, même si tu le dis pas comme ça, pour moi il est très important. Mais est-ce que tu penses que c'est réaliste de se dire les gens vont volontairement se priver, donc là c'est plus punitif parce que c'est volontaire, mais est-ce que tu crois que c'est réaliste que les gens fassent ça?
Se priver de quoi?
De l'électricité ou d'internet ou je sais pas, décider par eux-mêmes de consommer moins d'eau ou...
Il y en a déjà qui le font, hein. Il y en a déjà pas mal qui prennent ça en main en se disant voilà, je vais arrêter d'aller je sais pas, de commander de la nourriture en ligne ou de commander sur Amazon, je vais mettre à cuisiner moi-même, etc. Il y a pas mal de gens qui le font. Il y a beaucoup de jeunes, hein. Je fais une grande pensée pour Greta qui justement a motivé des millions de personnes, et c'est assez impressionnant. Et je pense que dans cette idée de se dire oh là là, les gens vont perdre du confort, je pense qu'ils vont aussi gagner en simplicité. Ils vont parfois gagner du temps. Ils vont aussi parfois gagner en convivialité. Je suis en train de lire là le bouquin de Ivan Illich, La convivialité. C'est un super ouvrage, justement. J'invite tous les auditeurs à le lire, qui rappelle en fait dans cette société pré-industrielle, pardon, qu'on était beaucoup plus proche en termes de convivialité. Et pour moi, ça me paraît pas utopique d'aller vers cette recherche de simplicité, de convivialité, de décroissance aussi, n'ayons pas peur du mot, pour pouvoir, on va dire, vivre mieux, tout simplement. Et ça, il y a des outils pour les mettre en place, il y a des processus de design qu'on peut mettre en place, les designers ont un travail monumental là-dessus, mais pas que les designers d'ailleurs, hein, les agronomes, les écologistes, les scientifiques, tout le monde je pense. Et je me dis voilà, de toute façon, soit on essaye tout doucement de le faire progressivement à notre mesure, soit un gouvernement va nous y contraindre, comme dans certains pays, je pense en Chine parfois, mais je pense aussi à d'autres pays où on a des dictatures vertes, et c'est ce qui nous pend au nez, je pense, dans pas mal de pays. Et puis aussi, on a des gens qui sont contraints de le faire pour des questions climatiques, les réfugiés, etc. Voilà, il y en a qui sont contraints, qui n'ont plus le choix. Et je préfère pour l'instant le faire tant que j'ai encore le choix, que de me dire le jour où j'aurai plus le choix, là je le ferai. Parce que là, quand on n'a plus le choix, ça commence à être un peu plus difficile.
C'est clair. Et alors, juste pour revenir sur ce que tu disais, parce que là, on parle de l'effort individuel, mais on s'est dit toutes les deux que finalement, l'effort individuel, même s'il était important, qui permettait de faire sans doute bouger les industriels, là où il y a le plus d'impact, évidemment, c'est les industries. Et à partir du moment où un industriel modifie ses règles ou modifie ses pratiques, on va dire, forcément, c'est un impact beaucoup plus fort que des individus regroupés. Est-ce que toi, dans ton métier, ou est-ce qu'à travers des lectures, des exemples, tu as justement des exemples à donner sur des modifications en termes de design d'entreprises qui ont fait des modifications qui permettent d'avoir des impacts beaucoup plus forts?
D'entreprises qui auraient fait une sorte de pivot, en quelque sorte. Alors, il y a des entreprises, par exemple, je crois que c'est l'annuaire en Angleterre. Ils ont redesigné la typographie. Ils ont créé une typographie qui est plus petite, plus serrée, ce qui permet d'économiser quelques dizaines de pages pour chaque annuaire, à l'époque où il y avait encore des annuaires, mm-hmm. et qui permet d'économiser donc des millions de tonnes de bois par an. Mm-hmm. Donc ça, c'est un tout petit exemple par le design, de se dire, voilà, une petite forme peut changer parfois pas mal de choses. Il y a aussi des entreprises, par exemple, je crois que c'est la bouteille de cristalline qui a créé un bouchon qui est accroché à la bouteille, ce qui fait que le bouchon ne part plus dans la nature et va étouffer des animaux ou des poissons, etc., mais reste solidaire à la bouteille. Donc les gens parfois se plaignent parce que le bouchon reste un peu accroché, c'est pas toujours très pratique, etc., mais malgré tout ils se sont dit, voilà, on va essayer d'avoir un impact mineur, malgré tout ça reste quand même des bouteilles en plastique. Donc justement il y a des entreprises qui essayent d'innover, de proposer des choses, etc., avec plus ou moins de sincérité. Il y a des entreprises aussi qui essayent de faire ça parfois maladroitement, hein, parce qu'elle reste avec un modèle capitaliste derrière, et donc de se dire, voilà, nous, notre objectif, c'est de faire la croissance verte. Donc de dire, on va continuer à gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, d'engraisser beaucoup d'actionnaires, et en même temps de continuer de croître, mais en respectant l'écologie et les principes environnementaux. En fait, continuer sur une croissance illimitée avec des ressources limitées, bah, au bout d'un moment, ça fonctionne plus. Parce que tout à coup, les ressources, bah, il n'y en a plus, quoi. Donc, il y a quelques entreprises qui essayent à ça. D'autres se disent, en fait, nous, on va fermer des secteurs, on va les revendre, on va les fermer complètement. On va déstorer, en quelque sorte, on va désinnover, je ne sais pas comment ils pourraient appeler ça, des pans de notre activité pour pouvoir se dire, voilà, il faut pivoter, il faut changer, il faut, on va dire, s'adapter aux secousses à venir. Après, il y a des entreprises qui pourront jamais changer parce que leur cœur de modèle économique est basé sur l'exploitation des ressources. Total pourra jamais pivoter en quelque sorte.
Ils essayent, hein.
Facebook avec le data. Ouais, ils essayent, ouais. Je voyais Philippe Maurice qui vend des cigarettes. Là, ils essayent de designer un smoke-free future. Ils appellent ça sur leur site. Où on voit des enfants ou des jeunes. En fait, comment une entreprise qu'un cigarettier qui vend du tabac peut imaginer innover sur les questions environnementales. C'est des vrais sujets très profonds et j'ai très peu d'espoir parfois sur ces sujets-là.
Ah, c'est pas une bonne nouvelle, qu'ils aient pas beaucoup d'espoir. Non, moi, l'exemple non, que j'ai... Après, j'ai rencontré la présidente de Philippe Maurice justement pour en parler avec elle. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur exemple en l'occurrence, après avoir discuté avec elle. Mais, désolé. Mais, non, pas pour toi, je dis désolé pour eux.
Ah mince, si, d'accord.
Moi, il y a un exemple bête, mais vraiment bête, c'est que si, par exemple, les imprimantes étaient par défaut imprimées en recto verso, alors qu'aujourd'hui, elles impriment par défaut en recto, ben forcément, ça fait un impact écologique. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, où au niveau des usines, tu parlais, ça peut être des usines sèches aussi, qui ne consomment pas d'eau. Enfin, il y a plein de... Ou de produire sur place, par exemple, de pas avoir de... Tu parlais de bouteilles d'eau, moi, le truc qui me fait hurler sur l'eau, c'est pas tant les bouteilles en plastique. Bon, il y a les bouteilles en plastique, mais c'est surtout qu'on envoie de l'eau dans des pays où il y en a déjà. Et ça m'a toujours échappé, en fait. J'avoue que ça n'a strictement... Alors, je comprends l'idée de la marque globale, hein, c'est mon métier de faire du marketing, mais j'avoue qu'envoyer de l'eau dans des pays où il y en a déjà, ça n'a quand même strictement aucun sens. Et pour ceux qui le consomment, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aller consommer de l'évian au Chili ou au Japon, ça n'a pas de logique.
Ça n'a pas de sens,
Toi, dans ton métier, comment tu essayes d'avoir un impact sur tout ça? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Parce que je sais que tu es impliqué et c'est aussi pour ça qu'on en discute. Comment tu essayes de faire bouger les lignes à ton niveau?
Alors déjà, c'est on va dire que déjà, pour moi, la première action là-dedans, c'est de ne plus faire. Déjà, il y a plein de trucs, il ne faut plus faire. Et ça, c'est pour moi, c'est la première action qui a un impact hyper positif sur la question environnementale, c'est d'arrêter. D'arrêter de faire des trucs qui vont à l'inverse de notre mission. Personnellement, après c'est vraiment mon engagement personnel, j'estime que le design il est là pour améliorer ce que Alain Findeli, qui est un professeur, dit, et améliorer l'habitabilité du monde. Donc c'est le fait que le monde soit habitable, autant pour les humains que pour les animaux, que pour les plantes, pour l'environnement, etc. Donc le fait de me dire, ok, si demain j'utilise le design et pour aller à l'inverse de l'habitabilité du monde, c'est plus du design, c'est autre chose, on peut appeler ça autrement, mais c'est plus du design. Donc pour moi, le premier point de départ, c'est de dire, on arrête de faire certains trucs, et une fois qu'on a dit ça, donc on gagne du temps, parce qu'on arrête de faire plein de trucs, on arrête de travailler pour, enfin on refuse plein de clients par exemple, hein, je vais pas citer les noms parce que la liste est longue, et une fois qu'on a dit ça, l'étape d'après, c'est de se dire, de quoi j'ai besoin en tant que designer pour travailler, dans quoi je veux m'engager, parce que voilà, on se lève tôt, on travaille beaucoup, on fait plein d'efforts, et ce qui est génial, c'est que des causes et des missions, il y en a, mais des milliers et des millions. Pour chaque designer, s'il y en a un qui travaille sur les droits des animaux, sur les droits des droits de l'homme, les droits des femmes, les droits des enfants, sur la justice sociale, sur l'écologie, enfin, il y a des sujets partout. Sujet, il suffit de regarder les MIT Global Challenge. Il y en a plein sur l'accès à l'eau, d'en parler. Il y a plein de choses à faire. Et une fois qu'on se dit, voilà, où je veux mettre toute mon énergie, tous mes efforts, comment on y va? Et à partir de là, moi, ce que je fais personnellement, c'est que dans chaque projet, que ce soit des projets de conférences, que ce soit des projets de workshop avec des étudiants, que ce soit des projets d'ouvrage pour des clients, que ce soit des projets d'interface numérique, etc., j'oriente tous ces sujets sur les questions environnementales, de résilience, d'indépendance énergétique, d'indépendance intellectuelle aussi. On fait des projets pour les réfugiés, on fait des projets pour les jeunes qui sont déscolarisés, etc., etc. Et chaque projet, chaque action, j'essaie de l'orienter dans ce sens, que ce soit des actions, on va dire, professionnelles ou personnelles. Et là, récemment, c'est aussi des façons de faire pour, j'en parlais récemment justement, de utiliser l'argent que je gagne aussi, alors pour manger, pour payer le toit que j'ai au-dessus de ma tête, mais aussi pour faire des projets non-profit, pour travailler gratuitement pour des ONG, des associations, pour financer des assos, de dire voilà, bah, je vais adhérer à cet asso, à l'Electronic Frontier Foundation, à Human Rights Watch, etc. De dire voilà, même la LPO, enfin voilà, tout plein d'assos pour utiliser l'argent que je gagne pour le redistribuer et ne pas pas en faire du profit justement, et puis continuer dans cette démarche d'apprentissage, de résilience, d'autonomie le plus possible, autant d'un point de vue personnel que d'un point de vue professionnel avec les clients avec qui je travaille.
Et est-ce que tu penses que les personnes que tu vois, ils sont prêts à faire cette modification, ce mouvement, que ce soit les entreprises ou que ce soit les individus que tu croises?
Pardon?
Est-ce que tu penses que les personnes qui... Enfin, pas ce que tu penses, mais dans ton expérience, les gens que tu croises, que ce soit les entreprises ou les individus, ils sont prêts à faire ces actions? Ils sont prêts à avoir cet engagement, plus ou moins ou...
Ben, j'essaie de les convaincre, j'essaie d'en parler. S'il y en a qui veulent pas, ben, tant pis, on passe le chemin on n'échange pas, on travaille pas ensemble. Il y en a qui sont déjà partant, donc c'est super, on se rencontre, on a envie de le faire, on y va. Et puis, il y en a qui viendront jamais me voir parce qu'ils savent très bien que ça fonctionnera jamais.
Est-ce que le design a un impact, aura un impact extrêmement important dans ce mouvement? Ou est-ce que tu crois que c'est à la marge que le design peut avoir un impact sur toutes ces questions-là?
Quand tu dis un impact, c'est un impact environnemental ou social, c'est ça?
Je pense environnemental, c'est vrai que ça pourrait être social, mais je pense environnemental.
De toute façon, c'est lié, hein. De toute façon, oui, c'est vrai, ma question est bête, pardon. Je suis persuadé que c'est un impact, parce qu'aujourd'hui, tout passe par les mains des designers. Alors, ça passe aussi par les mains des ingénieurs, par les mains parfois de politiques aussi, etc. Mais tous les objets et toutes les choses qu'on vient consommer, et notre société, c'est une société de consommation actuellement encore, ça passe par des mains de designers. Et donc, il y a un impact énorme. C'est pour ça que j'appelle à une éthique des entreprises, une éthique environnementale. J'appelle aussi à avoir des droits et des devoirs sur les objets qu'on crée. Si demain on crée une déclaration des droits et des devoirs des objets, il faut qu'un objet soit recyclé, il faut qu'un objet puisse être réutilisé, il faut qu'un objet puisse avoir une durée de vie de au moins 10 ans, j'en sais rien, 15 ans, 100 ans. On parle aussi beaucoup de design circulaire aujourd'hui, où le design ne doit pas produire de déchets, où le design doit être réemployable, réutilisé, doit utiliser des matériaux qui sont pas neufs, mais qui sont recyclés justement au départ, de s'inscrire dans une économie circulaire aussi, etc., etc. Il y a plein de pistes et plein d'actions à faire pour que le design aussi utilise ce rôle qu'il a depuis l'époque industrielle jusqu'à aujourd'hui et qu'il tombe pas aux oubliettes et au contraire qu'il soit exemplaire.
Et justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je vois dans ma consommation qu'aujourd'hui, j'essaie d'acheter des produits que je peux réparer, en fait, bêtement. Il y a une circulaire européenne pour l'obligation de pouvoir réparer, de trouver les pièces détachables, en tout cas pour les machines à laver, les frigos, enfin tout ce qui est blanc. Mais tout moi, en tout cas, dans ma consommation, c'est-à-dire que quand j'achète un casque audio, quand j'achète typiquement ma moto ou quoi, je fais très attention à ce que ça soit bien, enfin que je sois très capable, soit de le réparer moi-même, soit que ce soit réparable tout court. Et pourtant, le roi du design aujourd'hui, un petit peu, c'est John Ive chez Apple. Et Apple, en fait, à force de rendre par exemple, les téléphones ou les ordinateurs très plats, ils ont, enfin, tu le sais mieux que moi, mais collé les batteries. Les composants. Donc, ça va complètement à l'inverse de ce que tu dis. Et pourtant, il est considéré comme le roi du design aujourd'hui.
Ouais, tout à fait. Pour moi, aujourd'hui, ils vont à l'inverse du design. Microsoft fait pareil avec les surfaces. Tout est collé. Irréparable, c'est impossible à réparer. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont encore les rois du design. Mais si demain, on peut dire que le design, c'est aussi des objets réparables, c'est aussi des objets éthiques, c'est aussi des objets qui ont une présence et une conscience environnementale. Et ben dans ce cas-là, peut-être que les gens considéreront Apple comme une mauvaise entreprise de design, avec un nouveau regard, en disant « Ok, en fait, peut-être leurs produits ont été beaux, ont été simples, ont été pratiques, mais aujourd'hui, c'est des produits qui tuent, en gros, qui tuent des êtres humains, qui tuent des êtres vivants, en général. Dans ce cas-là, est-ce que on considère qu'un design peut être bon et peut être beau s'il détruit l'habitabilité du monde, le vivant, la biodiversité ? Est-ce qu'on est encore capable de pouvoir dire ça ?»
Intéressant. Et alors, ce podcast s'appelle
Blanc. J'aime beaucoup Apple.
Oui, moi aussi j'aime bien Apple, mais on voit bien qu'il y a des limites à l'exercice. Et pourtant, je suis client, hein, donc je suis en plein mea culpa. Donc, ce podcast s'appelle Blanc. Je voudrais savoir à qui ou à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte.
Je voudrais ouvrir la porte à Greta Thunberg.
Ouais, il y a plein de gens qui lui claquent la porte, hein, c'est marrant.
Ben justement parce que c'est une jeune femme, c'est une jeune fille, elle fait naître beaucoup d'espoir chez les jeunes. Moi, chez mes étudiants, il y en a beaucoup qui la prennent pour exemple, pour modèle, qui se posent des questions, et elle mérite de poser des questions. Elle a le mérite d'avoir du courage, et je pense que c'est beaucoup de courage qu'il va falloir pour mes étudiants, pour nous aussi. Et ça, vraiment, j'ai envie d'ouvrir la porte, parce qu'en fait, même si il y a plein de critiques, même si tout ça, même si c'est maladroit, même si j'en sais rien, eh ben, au moins, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'aller dans le bon sens. Et ouvrons-lui grand la porte.
Ok, super, merci beaucoup.
je te remercie beaucoup à toi, Grégory.
Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.